Place publique.
L'avenir de la Suisse, de ses paysages et de l'extension de ses constructions va se dessiner le 10 février prochain. Le peuple devra se prononcer sur l'initiative Stop le mitage pour un développement durable du milieu bâti. Le texte recueille pour l'instant une petite majorité d'avis favorables dans les sondages. Nous vous proposons un grand débat sur le sujet en direct dans Place publique.
Jusqu'à 19h, Place publique. François Comte.
Un seul sujet donc au menu du scrutin fédéral du 10 février prochain, mais un sujet qui va définir le visage de la Suisse du futur. La population est appelée aux urnes pour dire si elle accepte ou non l'initiative sur le mitage du territoire. Le texte a été lancé par les Jeunes Verts. Il prévoit de limiter drastiquement les zones à bâtir dans le but de préserver les terres agricoles. Pour en parler, nous recevons pour le camp du oui, en direct de notre studio de Marin, le vice-président des Jeunes Verts Neuchâtelois, Xavier Chaland, et le président d'Habitat Durable, section Neuchâtel, et député suppléant Joël de Saulle. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et pour les partisans du non, en direct de Delémont, Jean-Paul Kschwind, conseiller national jurassien PDC, ainsi que Flavio Torti, entrepreneur à Reconvilier et membre du comité central de la Société Suisse des Entrepreneurs. Bonsoir également à vous.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Et nous accueillons aussi notre correspondant au Palais fédéral, Serge Hubin. Bonsoir Serge.
Bonsoir.
Alors avant de lancer la discussion, nous allons tout d'abord évoquer un peu plus en détail le contenu de cette fameuse initiative sur le mitage. Gabriel Devecq nous présente les points principaux du texte soumis au peuple le 10 février.
8 terrains de football sont bétonnés chaque jour en Suisse, soit 1 mètre carré par seconde. La nature et le paysage en sont les premières victimes. Partant de ce constat choc, les Jeunes Verts demandent de geler les zones à bâtir sans limitation de temps. Leur initiative contre le mitage du territoire, soit l'étalement urbain, exige surtout que toute création de nouvelles zones constructibles soit compensée par le déclassement d'une zone équivalente. De plus, les constructions admises hors des zones à bâtir seraient limitées au strict minimum. Par exemple, dans l'agriculture, impossible de construire quoi que ce soit si l'activité n'est pas liée au sol du terrain en question. Le texte demande aussi que les surfaces construites soient mieux utilisées. Enfin, les collectivités devraient promouvoir les formes d'habitat et de travail durable. Les opposants jugent cette initiative extrême. Si personne ne nie l'importance de préserver la nature et le paysage, il est hors de question de mettre la Suisse sous cloche. Selon eux, c'est nier les besoins de la population et de l'économie. Et pour ces mêmes opposants, raréfier les zones constructibles, c'est risquer de faire flamber les prix de l'immobilier. Surtout que la loi sur l'aménagement du territoire votée en 2013 n'a de loin pas déployé tous ses effets. Cantons et communes y travaillent d'arrache-pied.
Alors, on a pris connaissance des détails de ce projet. Serge Hubin, comment cette initiative a été accueillie par la classe politique fédérale et comment s'est déroulée la campagne jusqu'à présent ?
Alors la classe politique fédérale a refusé nettement cette initiative. Seuls les Verts et quelques socialistes l'ont accepté. Tout le camp bourgeois et le centre ont dit un non très net. Le Conseil fédéral également a dit un non très net. Par contre, c'est une marque de fabrique souvent des initiatives. Dans un premier temps, un très bon accueil dans la population. Encore aujourd'hui, les sondages lui prédisent une victoire. Malheureusement, on sait aussi que ces initiatives perdent du terrain en fin de campagne. Alors, c'est difficile de donner un pronostic aujourd'hui. On dira aussi que tout ce qui a trait à la protection du paysage est extrêmement sensible en Suisse et c'est bien accueilli dans la population. On rappellera l'initiative de Rothenturm, c'était en 1987. Plus près de chez nous, l'initiative Weber contre les résidences secondaires. Puis l'adoption par le peuple aussi de la loi sur l'aménagement du territoire, la fameuse LAT, qu'on oppose aujourd'hui à cette initiative contre le mitage. On dira encore, et c'est important, qu'il y a des chiffres qui sont chocs dans cette campagne. Toutes les minutes, 1 mètre carré de bétonné, tous les jours, 8 terrains de football. Et ces éléments chocs, ça marque la population. On y a opposé, bien sûr, la LAT, c'est ce qui viendra, bien sûr, dans le débat. On dit aussi qu'elle n'a pas déployé tous ses effets, bah évidemment, puisqu'elle vient d'entrer en vigueur. C'est difficile de comparer, de savoir ce que ça va vraiment donner. Surtout que dans certains cantons, en particulier dans l'Arc jurassien, on a renaclé à réaménager rapidement le territoire ou à refaire le plan d'aménagement. Et tout ça, je dirais, laisse planer un certain doute sur la véritable volonté des pouvoirs publics de ménager le terrain à bâtir. Alors, on relèvera que c'est une opposition assez classique, gauche-droite, au niveau des partis politiques. Par contre, dans les grandes associations, professionnelles notamment, on sent une grande division chez les paysans, chez les architectes. Vous avez vu ces architectes, 300 architectes suisses, dont Mario Botta, qui appelle à accepter cette initiative pour donner un nouveau souffle, on dira, au principe du bâti en Suisse. Et tout ça fait qu'aujourd'hui encore, il est difficile de donner un pronostic.
Alors, c'est tout l'intérêt de ce débat. Précisément, chaque voix va compter. Merci Serge pour ces explications. On vous retrouvera à la fin de l'émission. Vous nous livrerez votre regard sur les échanges qui auront été les nôtres. Petite précision encore, le débat va se diviser en trois parties. La première portera sur la problématique des zones à bâtir et des mécanismes de compensation. La deuxième traitera des impacts de l'initiative sur l'immobilier et le développement économique. Et puis enfin, nous parlerons du concept de quartier durable en tant que potentiel nouveau modèle de société. Alors, la mise en place de zones à bâtir, elle est régie par la LAT. Serge Hubin l'a encore rappelé tout à l'heure. C'est la loi sur l'aménagement du territoire qui a été approuvée en 2013 en votation. Le texte impose de limiter les zones à bâtir aux besoins estimés sur une période de 15 ans. Serge Hubin l'a rappelé également. Cette loi n'a pas encore déployé tous ses effets. Xavier Chalande, je commence par vous. Pourquoi finalement avoir lancé une initiative aussi radicale que la vôtre alors que les conséquences de la LAT n'ont pas encore pu être évaluées?
Alors écoutez, d'abord, cette initiative, elle n'est pas complémentaire à la LAT. Elle dit bien qu'elle veut stopper le mitage du territoire. Donc ça veut dire qu'elle veut geler la zone constructible une fois pour toutes. Vous l'avez rappelé, la LAT, tous les 15 ans, est remis en cause. On refait un plan d'aménagement. Et ça veut dire que tous les 15 ans, on peut de nouveau dézoner du terrain agricole en zone à bâtir. Donc c'est vraiment pour dire, voilà, on gèle toute la zone à bâtir et puis on peut régler comme ça les problèmes d'aménagement du territoire à long terme.
Mais est-ce que ce n'est pas trop radical de fixer ça dans la Constitution sans limite de temps précisément ?
Non, je crois au contraire, ce n'est pas forcément radical. Nous, ce qu'on veut, c'est un aménagement du territoire durable et je crois que la population veut ça, en particulier la nouvelle génération. Et si on gèle actuellement la zone à bâtir, eh bien, on pourra dire, ben voilà, il reste X zones à bâtir et puis construire intelligemment dessus. Parce que si tous les 15 ans, on sait qu'on peut dézoner du terrain agricole, ça veut dire aussi qu'on peut-être on va moins réfléchir et puis on va faire un petit peu n'importe quoi.
Merci pour cette première affirmation qui nous permettra de lancer le débat. J'en profite également pour vous indiquer, vous quatre qui êtes là, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Évidemment, vous êtes là aussi pour échanger entre vous et pas seulement pour répondre à mes questions. Flavio Torti, pour vous, la loi actuelle, elle est suffisante, cette fameuse LAT, mais est-ce qu'elle empêche vraiment aujourd'hui les entreprises de construction de réaliser certains projets ?
Alors les entreprises de construction sont là pour réaliser les projets, ce sont les promoteurs ou ce sont également les communes, les cantons qui voient éventuellement leur projet être un petit peu contrecarré par cette latte. Des projets qui ont été revisités, qui ont dû un petit peu être assouplis, qui ont dû être modernisés et qui ont dû vraiment un petit peu prendre la forme de cette 24 lattes qui a quand même posé beaucoup de problèmes. Et elle est surtout des problèmes dans certains cantons qui ont vraiment voulu suivre cette 24 lattes. Et on a pu constater qu'aujourd'hui encore, eh bien, elle n'a pas encore donné tous ses effets. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, la SSC Suisse eh bien, trouve que cette initiative va trop loin et qu'on est contre le radicalisme.
Joël Dessault, la latte, elle produit déjà des effets, en tout cas ce qu'affirme la Confédération avec certains chiffres, puisque la surface de zones à bâtir par habitant a reculé de 6% entre 2012 et 2017. La progression des zones à bâtir s'est limitée à 1,5% durant cette période. Et puis on a vu encore récemment, pour prendre l'exemple du Jura, mais il y a d'autres exemples, que le tribunal fédéral avait empêché la création d'une nouvelle zone à bâtir, c'était à Glovelier. Alors est-ce que tout ça, ça ne rend pas votre initiative superflue ?
Alors, l'initiative, elle prévoit un système de compensation qui est exactement le même que celui qui est prévu aujourd'hui dans le cadre du moratoire de la LAT. En effet, certains cantons n'ont pas encore, les plans n'ont pas encore été acceptés par la Confédération et le système est actuellement en vigueur.
Le système est en vigueur, donc pour vous, malgré tout, il n'est pas suffisant ?
Il n'est pas suffisant parce qu'il va le système de la LAT est prévu que pour une période de 15 ans et il faut éviter qu'après cette période de 15 ans, on puisse à nouveau utiliser des surfaces agricoles pour construire. Parce qu'on vit dans un monde où les terres agricoles sont une ressource rare. En Suisse, hein, on doit pouvoir conserver ces terres agricoles, non seulement pour l'agriculture, mais également pour la préservation du paysage. Et c'est une question qui doit être réglée à long terme. Je reviendrai sur votre question. Donc, on n'a pas de diminution de la surface à bâtir depuis la dernière statistique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On est plus ou moins constant au niveau des surfaces hors de zone à bâtir. En revanche, depuis cette période, on a finalement une augmentation de la population qui a augmenté, je crois, de 7%.
Monsieur Kschwind, vous vouliez réagir ?
Oui, je veux réagir à ce qui vient d'être dit. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de diminution des terrains agricoles, mais il faut quand même attendre une chose, c'est que la LAT 1 est déployé ses effets dans sa totalité, puisque les cantons, elle entre en vigueur le 1er mai 2014 et que les cantons ont jusqu'à 5 ans pour déposer leur plan de directeur cantonal. D'après les informations que j'ai, il y a 2 cantons qui ne l'ont pas encore fait. Donc, il semblerait qu'il y ait le Jura qui soit dans les deux, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une diminution des terrains à bâtir. Ce n'est pas vrai. Je prends par exemple le cas de ma commune, où on a créé un plan d'aménagement local tout dernièrement. Il y a eu des restructurations qui ont été faites, des déclassements qui ont été faits au grand dam des propriétaires de terrains à bâtir. Donc, il ne faut pas dire ça. La LAT 1 n'a pas fini de déployer ses effets.
Alors là, monsieur Dessau, on va vous laisser réagir évidemment à ce que dit monsieur Kschwind.
Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que contrairement à ce que vous dites, donc il n'y a pas eu de diminution depuis 1991 de zones à bâtir. Il reste aujourd'hui 400 km² de terrain constructible. Donc c'est une réserve importante qui permet de régler la question du défi démographique. 400 km², ça représente 22 fois la surface de la ville de Neuchâtel ou la moitié de la surface du canton de Neuchâtel. Donc, il n'y a pas de risque par rapport à l'initiative d'avoir une diminution au niveau et un frein au niveau de la construction. Au contraire, on va plutôt dans un système qui va, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, vers un système qui permettra de construire mieux avec des meilleures situations, des situations où les infrastructures, en particulier les transports publics, sont déjà bien développées.
On en parlera effectivement, mais Jean-Paul Kschwind, je voudrais vous poser une question à propos de cette LAT qui est en cours d'application. Est-ce qu'elle ne provoque pas finalement un effet pervers en encourageant les cantons et les communes à surdimensionner les zones à bâtir pour bénéficier de réserves, quitte après à ce qu'elle soit déboutée par une instance supérieure, un tribunal cantonal ou le tribunal fédéral?
Non, je ne pense pas. Donc la LAT 1, elle s'est basée sur des constats qui existent antérieurement à son entrée en vigueur. Donc en ce qui concerne donc l'application de la LAT 1, il y a un moratoire maintenant de 5 ans où il n'est plus possible de faire une zone d'une zone constructible, moyennant un déclassement d'une zone à bâtir en terre agricole. Donc il n'y a pas une possibilité maintenant pour les cantons ou les communes d'étendre leur zone constructible en vue d'obtenir un gain maximum. Non, c'est pas ça la vérité. Donc vous avez vu qu'on a Courtetel et Develier qui ont voulu étendre leur zone constructible, ils ont été déboutés par le tribunal fédéral. Une loi fédérale, c'est une loi qui concerne tout le monde. Mais ce que je peux encore dire quelque chose, c'est que d'un côté, je peux comprendre l'initiative des Jeunes Verts, sur le fond, elle n'est pas mauvaise. Mais ce qu'il y a, c'est que cette initiative, on peut l'appliquer à Bâleville, Zurich, dans des cantons urbanisés. Mais chez nous, au canton du Jura, c'est un canton rural. On a 93% de la surface qui est en zone agricole et zone boisée. On a 7% qui est en zone de construction. Mais alors, je lance un appel ici aux entreprises qui viennent s'installer chez nous. Chez nous, il y a de la place. Mais alors, on ne veut pas continuer dans le sens que vous préconisez. Ça veut dire maintenir nos zones agricoles, maintenir nos zones boisées pour permettre à Zurich ou à Bâle de pouvoir s'étendre. Non, alors, moi je suis contre ce principe.
Xavier Chalande, justement sur cet argument-là que souligne Monsieur Kschwin, c'est un peu la Suisse urbaine, entre guillemets, qui cherche à imposer ses vues à la Suisse des champs, un peu ras des villes, ras des champs, quoi.
Non, mais je ne crois pas que c'est la Suisse urbaine qui veut vraiment s'imposer. Après, dans les zones urbaines, on ne peut pas faire d'agriculture. Donc, c'est ça le but, c'est de préserver les zones agricoles. Donc, on sait que dans le Jura et Neuchâtel et aussi le Jura bernois, c'est là qu'il y a les zones agricoles. Donc, on ne va pas bétonner ces zones-là. Donc, oui, on va densifier dans les villes et construire dans les zones périurbaines, mais on ne va pas les construire au milieu de nulle part. C'est justement ça le but de l'initiative, c'est de stopper le mitage. Et le mitage, qu'est-ce que c'est ? C'est bien, c'est construire des villas en dehors des villages pour avoir des zones qui sont au milieu de nulle part. Je crois qu'il faut vivre dans les zones urbaines et périurbaines parce que c'est là aussi où on a toute la problématique des transports, de la mobilité et tout ce qui va avec. Donc il faut pas arrêter de dire que maintenant on va étendre le Jura et puis déboiser les pâturages. Le but de l'initiative, c'est justement stopper le mitage. Donc c'est construire où ça vaut la peine d'être construit, où alors, ça a un sens,
on rappelle,
où il y a des transports en commun, par exemple.
On rappelle donc que l'initiative demande finalement un gel ou au moins une compensation, un gel des zones à bâtir et une compensation en création de nouvelles zones à bâtir. Un des arguments des partisans du texte, Flavio Torti, c'est de dire que finalement, il existe aujourd'hui suffisamment de terrain disponible en zone de construction pour répondre aux besoins. C'est vrai, finalement, cette initiative, elle ne préconise pas l'arrêt de la construction, mais juste une autre utilisation du sol.
Le problème, c'est qu'avec une terminologie qui utilise une notion temporelle, ça peut faire peur à différents groupes économiques ou privés. Et c'est ça que l'on n'aime pas non plus, parce qu'on prend l'exemple également du Jura bernois, on voit avec les effets déployés par la N16, que se passe-t-il si une telle initiative va passer ? Il y aura un temps d'installation et tout le monde va sauter sur les terrains. Donc automatiquement, il y aura une énorme demande par rapport à peu de terrains disponibles. Ça va faire augmenter les prix terriblement et peut-être aussi priver certaines personnes d'un accès à la propriété privée. Donc là, je pense que faire peur n'est pas dans l'histoire suisse, n'est pas dans le consensus suisse, parce que l'histoire suisse, c'est le consensus. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que dans une région, on prend rurale, nous sommes proches avec le cordon ombilical de la N16 d'une zone combienne, et on voit l'effet économique. Mais, encore une fois, aujourd'hui, avec les différentes lois en vigueur et qui nous ont été imposées, eh bien, personne ne cherche à faire augmenter les choses, on cherche à rationaliser les choses. Pourquoi ? Parce que maintenant, le pouvoir d'achat est quand même limité et qu'on cherche véritablement à optimaliser les prix de construction, les prix de coût. Donc, je ne vois pas véritablement le danger exponentiel de voir des constructions faites n'importe où, n'importe comment. Au contraire, aujourd'hui, eh bien, chacun cherche d'optimaliser le terrain. Et on voit aussi dans le Jura bernois, toutes les demandes qu'on a, on doit les traiter rapidement parce qu'effectivement, le PAL du canton de Berne entre en vigueur dès 2020. Et si tous ces différents projets ne sont pas déposés, eh bien, il y a un risque que toutes ces zones qui ont été avec acharnement conservées par les communes pour avoir un développement durable aussi, mais un développement qui a été concerté, eh bien, tout ça risque de tomber à la poubelle. Et ce serait dommage pour toutes les instances politiques et toutes les personnes qui se mettent à disposition de nos communes afin justement d'avoir un développement harmonisé.
Alors, on va évoquer tout à l'heure. La question des prix du terrain, je vous promets qu'on y reviendra, mais Joël De Saulz, pour revenir par rapport à ce que disait Flavio Torti, est-ce que, en définitive, cette initiative, votre initiative, si elle devait passer, elle risquerait pas de provoquer un frein au développement des régions, alors on peut les appeler rurales ou périphériques, comme on veut ?
Non, je crois pas du tout, parce qu'on a également dans des régions périphériques, on a aussi dans certaines régions qui sont très bien desservies par des transports publics et rien n'empêche la création de logements dans le concept par exemple de quartiers durables dans des localités plus petites, pour autant qu'il y ait en effet une bonne infrastructure au niveau des transports transports publics. Au niveau du coût de la construction, il ne faut pas oublier que le terrain, en principe, c'est uniquement 20% du coût de la construction. Et comme l'a dit M. Torti, il y a des grandes possibilités d'optimiser au niveau des coûts de la construction elle-même. Donc on ne devrait pas avoir une augmentation des coûts de la construction en raison de notre initiative.
On évoquera les coûts, je vous promets, tout à l'heure dans la deuxième partie, mais j'aimerais qu'on reste sur cette problématique de terrain, de répartition des terrains entre l'agriculture et puis les zones à bâtir. Jean-Paul Kschwind, on vous sait proche des milieux agricoles. Et pourtant, cette initiative qui veut protéger les terres agricoles, vous la combattez. Est-ce que vous n'êtes pas dans la contradiction ?
Non, je ne suis pas tout à fait... aucunement dans la contradiction. Je tiens à préciser ceci. En ce qui concerne les terres agricoles, je pense que les agriculteurs, les milieux agricoles n'ont pas besoin des jeunes verts pour défendre leurs terres. D'une part, on a voté une initiative sur la souveraineté alimentaire qui a été acceptée à 77%, si je ne m'abuse, de la population. Et cette initiative prévoit justement de protéger les terres agricoles, les bonnes terres agricoles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la LAT 1 va exactement aussi dans le même sens, dans la mesure où elle protège aussi les terres agricoles. Donc pourquoi remettre encore une couche ? Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette initiative, donc qui veut encore verrouiller, geler les zones à bâtir, les zones constructibles. Donc je pense qu'avec une initiative comme ça, on va droit dans le mur, on va paralyser donc la construction et dans le même temps le développement économique, notamment dans notre canton. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi en ce qui concerne le développement, l'extension des zones constructibles pour l'économie dans la LAT 1, il est prévu, il est donné la possibilité à une entreprise qui veut s'étendre de pouvoir le faire dans la proximité immédiate de son centre. Donc ça veut dire que maintenant, toute entreprise peut se développer, pour autant qu'elle ait des terrains à disposition à portée de son entreprise. Donc, c'est une possibilité qu'il ne faut en tout cas pas vilipender et qu'on doit garder.
Alors,
c'est
bien. On va là également parler de cette problématique de l'économie. Je me permets d'intervenir à ce stade du débat parce que j'aimerais qu'on dise tout de même un mot du mécanisme de compensation qui est prévu dans l'initiative en de création de nouvelles zones à bâtir. Il faudrait alors déclasser une surface de taille équivalente et d'une valeur de rendement agricole équivalente. Le texte de l'initiative ne précise pas si cette compensation doit s'effectuer au niveau cantonal ou national. Xavier Chalande, est-ce que cette compensation, elle risque pas d'accentuer encore un peu plus le déséquilibre entre les communes, les territoires déjà fortement densifiés et ceux qui auraient précisément besoin de se développer davantage? Alors on sait que vous militez pour une densification accrue, mais est-ce qu'un tel mécanisme de compensation comme celui-là, il ne va pas encore accentuer de manière vraiment importante le delta et donc les ressources aussi à disposition?
Non, je ne crois pas. Alors, moi, je pense qu'il faut, au niveau de ce mécanisme de compensation, avoir une compensation au niveau cantonal. Je pense que ça sera beaucoup plus simple qu'une compensation au niveau national. Alors, certes, la législation sera nationale, mais après, je pense que c'est, à mon avis, au canton de compenser ça. Alors, après, comment ça peut être compensé ? Bien, je pense, à mon avis, financièrement. Hein. Mais ça fait vraiment du sens avec cette initiative de montrer que les propriétaires terriens, je parle des propriétaires privés qui auraient du terrain constructible et qui n'ont pas envie de construire dessus mais le vendre, ils ont une certaine responsabilité. La terre, elle est ce qu'elle est, on ne va pas pouvoir la réagrandir. Donc quand on est propriétaire terrien, on a une chance. Et pour moi, l'idéologie d'un propriétaire terrien, c'est qu'il doit en faire bon usage et pas construire n'importe quoi dessus. Donc oui, s'il perd un petit peu d'argent parce que son terrain qui était en zone à bâtir est déclassé en zone agricole, ben, c'est un petit peu le revers de la médaille, mais c'est quelque chose de... Pour moi, ça ne pose pas de problème.
Il devrait être dédommagé dans ce cas de figure-là ?
Oui, alors c'est ça, on parle de ça, il devrait être dédommagé. Mais alors, effectivement, on pourrait peut-être pas dédommager au franc près, hein, mais dédommager un petit peu, oui.
Jean-Paul Kschwind, est-ce qu'il y aurait vraiment péril en la demeure si ce mécanisme de dézonage d'un terrain en cas de création d'une nouvelle zone à bâtir se mettait en place? Ce système, il est déjà pratiqué de nos jours.
Bien sûr, ce système, il est pratiqué de nos jours, mais il est beaucoup plus flexible. Donc, avec l'initiative Stop au mitage, On a en Suisse, j'ai appris maintenant 400 km², mardi soir on nous a dit 300. Mais ce que veut l'initiative, donc, c'est geler ces 300 voire 400 km² de terrain à bâtir. Il n'y a pas une nouvelle zone qui se fait au niveau de la surface. Si on veut créer une nouvelle...
Oui, alors il faudrait dézoner.
Si on veut dézoner, mais il faut compenser par des surfaces... au rendement agricole de même qualité que les terrains qui sont en zone à bâtir maintenant. Ça, c'est une chose. Mais après, la compensation financière, moi, je veux bien, mais allez voir l'appliquer, c'est pas si facile.
Alors, justement, cette compensation financière, si elle devait avoir lieu, Joël De Saul, finalement, est-ce que ça risque pas de coûter cher aux collectivités publiques ?
Alors, en principe, et c'est le principe qui est appliqué actuellement dans le cadre du moratoire, on a certaines personnes qui vont avoir des terrains qui vont prendre la valeur. Donc, ces personnes-là, elles vont devoir verser des montants. Et ces montants vont permettre de dédommager les propriétaires qui, eux, vont perdre de la valeur.
Alors, j'aimerais qu'on passe maintenant au deuxième volet de ce débat. Il nous reste une dizaine de minutes pour les deux derniers volets. On va essayer de faire un peu plus court. Flavio Torti, les opposants dont vous faites partie prédisent une explosion des prix du terrain si l'initiative passe, c'est ce que vous avez dit en gros tout à l'heure. Mais est-ce que vous peignez pas un peu trop le diable sur la muraille ?
Oh ben en tout cas, pas autant que l'initiative le veut, puisque c'est un gel total. On rappelle qu'en Suisse, entre 2012 et 2017, la surface à bâtir par habitant a baissé de 309 mètres carrés, si je ne m'abuse, à 291 mètres carrés. Ça veut dire 6% de moins, si on veut parler de chiffres. On a aussi des statistiques.
Par habitant, hein ?
Habitants. On sait que dans notre région, c'est aussi la région qui a la chance d'avoir le plus grand nombre de mètres carrés par habitant, donc on l'a aussi connu. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, quand on voit les propriétaires, on s'imagine des grandes sociétés, des grandes familles, tutti quanti, ou des gens qui ont vraiment des potentiels. Mais il y a aussi beaucoup de gens chez nous qui ont des terrains, qui savent peut-être, qui ne connaissent pas toutes les lois. Dans nos communes aussi, on a des gens qui se mettent à disposition. Et cette initiative fait quand même un petit peu souci parce qu'on a l'impression quand même qu'il y aura les nantis et les non-nantis. Et j'estime aussi que les propriétaires terriens qui distribuent à leurs enfants tutti quanti des terrains dans toute la Suisse, parce que c'est des choses nationales, on l'a dit souvent, ne méritent pas d'avoir un gel comme ça parce qu'on ne sait pas où on va. Et souvent, ces petites choses, ces terrains, c'est aussi l'apanage historique de familles ou de communes, car on rappelle que ça va aussi toucher les communes pour des bâtiments communaux, pour des terres, pour des aménagements sportifs et tutti quanti. Et encore une fois, nous, SCC Suisse, nous estimons que avec les lois actuelles, on a déjà pas mal de garde-fous. On a fait des progrès, car c'est vrai qu'il ne faut pas le trop peu perdre tous les jeux, on est d'accord. Mais aujourd'hui, nous avons assez de lois. On n'a pas encore tout mis en pratique. Et cette loi, cette initiative trop radicale est trop extrémiste. Et nous sommes vraiment contre ça, parce que cela prive, en fait, le consensus suisse.
Xavier Chalande, moins de terrain à disposition, c'est ce que disent les opposants. Donc une offre réduite, donc une pression à la hausse sur les prix. Ça paraît assez logique comme argument. Mais vous estimez que finalement, les prix ne vont pas forcément... augmenter, puisqu'il y a, selon vous, des réserves de terrain à bâtir en suffisance. Mais est-ce que vous pouvez garantir que les prix n'exploseraient pas ?
Mais je crois que, d'abord, cette initiative, elle n'a rien d'extrême. Il faut, j'ai envie de dire à la population, n'ayez pas peur, le prix ne va pas augmenter. Parce que, justement, on sera dans des logements durables, qui prendront moins de place. On va y revenir après avec les coopératives d'habitation. Absolument. Et les modèles durables. On est quand même à moins de place que la villa individuelle. Et puis, il y a aussi un aspect philosophique. Aujourd'hui, la société, qu'est-ce qu'elle veut ? Eh bien, les gens ne veulent plus leur petite villa individuelle avec la voiture, la piscine et le chien, mais ils veulent vivre en communauté. Et ça, c'est vraiment la jeune génération qui veut ça. Donc, à l'avenir, il y aura plutôt des communautés d'habitation que des quartiers de villa individuelle. Donc, je ne vois pas où est le problème sur les prix avec ça. Je crois qu'on a occulté pour l'instant cet aspect philosophique de la chose et ce changement sociétal qu'on veut, que la jeunesse veut, qu'elle a montré, cette jeunesse qu'elle veut, cet aspect sociétal. de changement sociétal. Donc moi, j'ai aucun souci pour la hausse des prix.
J'aimerais qu'on si dise... vous permettez, les opposants essayent de faire peur aux locataires en disant qu'il va y avoir une énorme augmentation au niveau des prix des loyers. J'aimerais juste rappeler qu'aujourd'hui en Suisse, il y a plus de 70 000 appartements, logements qui ne sont pas loués, qu'on est plutôt dans une période de détente, et en tout cas dans le canton de Neuchâtel, à part le littoral, on n'est plus dans des situations de pénurie au niveau du logement, et on voit même les loyers qui diminuent. J'aimerais encore ajouter que les loyers, évidemment, ils sont très élevés, en particulier dans des villes comme Genève, Lausanne. C'est aussi en raison de la spéculation immobilière où les propriétaires augmentent les loyers à chaque fois qu'ils changent de locataire.
J'aimerais qu'on dise rapidement un mot quand même, tout de même, parce que je l'ai promis tout à l'heure, sur l'impact pour l'économie, les entreprises. Jean-Paul Schwinn, vous craignez que finalement des entreprises ne puissent plus s'agrandir ou s'implanter quelque part en cas de oui à cette initiative. Et ensuite, on laissera M. Chaland répondre à votre intervention.
Je pense qu'il y a un risque certain qu'on ne peut pas nier. Donc, comme je l'ai dit avant, la LAT 1 permet à une entreprise de s'étendre pour autant qu'elle a intérêt à proximité immédiate de son entreprise. Maintenant, si vous avez des entreprises qui veulent venir chez nous, par exemple, bon, nous, le canton du Jura, je pense qu'on a encore assez de zones d'activité pour recevoir du monde. Mais dans d'autres cantons, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces entreprises? S'ils ont une demande pour créer 1 000 emplois ou bien 500, s'ils ne peuvent pas faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, on va partir. Ils veulent partir ailleurs. Peut-être pas dans un autre canton, peut-être. Mais il y a un risque de délocalisation certain.
Monsieur Chalang, est-ce que justement ce risque-là, vous ne l'avez pas un petit peu sous-évalué? Est-ce qu'il existe? Il est réel, selon vous?
Mais écoutez, j'ai parlé avant de changement sociétal. Est-ce qu'on veut encore une croissance à 2 chiffres chaque année? Je ne crois pas, non. Donc on ne va pas pouvoir encore accueillir des centaines et des milliers d'entreprises en Suisse ou dans les cantons. Je crois que la création d'entreprises, elle est là, mais elles ne vont pas utiliser encore des hectares et des hectares de terrain. On voit que les grandes industries, c'est fini actuellement.
Vous êtes favorable à la décroissance, en quelque sorte.
Cette initiative ne veut pas forcément la décroissance. Elle dit qu'on peut accueillir encore du monde, mais pas dans le modèle sociétal qu'on est actuellement aujourd'hui. Et puis, en concernant la croissance des entreprises, eh bien, je pense qu'on est plutôt favorable à une croissance modérée. Pas la décroissance, mais une croissance modérée.
Alors, chose promise, chose due, on va parler maintenant de quartier durable. S'agit-il d'un nouveau modèle de société? L'initiative demande justement de soutenir ce type d'habitat, de quartier durable, quartier dans les centres urbains, moins de voitures, des commerces, des places de travail à proximité. Joël Dessaul, vous êtes le président de la section neuchâteloise d'habitat durable. Est-ce que ce modèle, finalement, il n'est pas, encore une fois, exclusivement urbain, réservé aux urbains, et quid pour les campagnes?
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de... l'initiative, elle n'interdit pas à des villages dans les campagnes d'avoir des projets de construction de quartiers durables. Pour notre association Habitat Durable, pour nous, c'est vraiment l'initiative, c'est le seul moyen de protéger les terres agricoles tout en proposant des projets de quartiers durables. Peut-être qu'il faut un petit peu définir cet élément, mais ça permet de construire, donc de densifier dans des endroits où on a déjà une bonne infrastructure au niveau des transports publics. On doit respecter des espaces verts importants. On a toute une convivialité entre les habitants, et ça permet surtout aux habitants d'être proches de leur lieu de travail, de leur lieu de leur lieu de loisirs, de leur lieu d'études, et je pense que comme le disait Xavier Chaland, c'est un nouveau paradigme au niveau de l'habitat.
Jean-Paul, on va faire réagir Monsieur Chine, je reviendrai ensuite avec vous. Finalement, du côté des initiants, on dit que le modèle de la maison individuelle, on ne peut plus le continuer, mais ça paraît aussi assez logique, parce que tout le monde ne peut pas vouloir sa maison et son jardin.
D'accord, je crois bien admettre qu'on peut faire des concessions, construire des maisons avec 1000 mètres carrés, ça je suis d'accord. Mais quand on parle d'habitat durable, je pense qu'il y a deux sortes d'habitat durable. Tout d'abord, vous avez un habitat durable avec des appartements juxtaposés, où on construit des maisons à des coûts exorbitants. On a encore vu ça dernièrement dans les médias, donc avec des super minergies. Et puis d'autre côté, vous avez l'habitat durable où on met des bâtiments de 8-10 étages. Alors on revient au système HLM, puis vous dites c'est ça l'avenir de la société, de la jeunesse, de notre jeunesse, c'est l'aspect sociétal qu'elle veut. Non, je ne crois pas.
Joël Dessaulle, on va vous laisser réagir à cet aspect-là. Oui. Ensuite, je redonnerai la parole à Flavio Torchi, après on devra conclure.
Alors, je ne crois pas que le but de la promotion des quartiers durables va vers la construction de tours de 200 mètres. Bien au contraire, hein, les meilleurs exemples de densification, c'est des îlots carrés où au milieu, on a un espace vert. On a à Neuchâtel, par exemple, le quartier des Beaux-Arts, qui permet une très bonne convivialité entre les habitants. Par ailleurs, les quartiers durables, ils doivent permettre ce qu'on appelle la mixité sociale et intergénérationnelle. Donc, ça permet de construire non seulement des appartements en propriété par étage, mais également des coopératives d'habitation où là, ce que le locataire ou ce que le coopérateur va payer, c'est le prix coûtant et non pas un prix surfait qui profite à un propriétaire. Et tous ces éléments devraient permettre non pas d'avoir des HLM comme a l'air de le prévoir l'opposant, mais plutôt des infrastructures, des habitations qui permettront de mieux vivre et surtout de mieux vivre parce qu'il y aura moins de trajets à effectuer avec son véhicule privé. On ne sera pas obligé d'accompagner les enfants chaque fois qu'ils vont faire une activité. Ce sera beaucoup mieux parce que ce sera beaucoup plus agréable à vivre et on pourra ainsi avoir un impact positif sur les questions environnementales et la pollution de l'air.
Un tout dernier mot, il nous reste environ 2 minutes pour à la fois une dernière réponse de Flavio Torchi et la conclusion, donc on va serrer. Flavio Torchi, ces créations de quartiers durables, ça serait quand même une bonne nouvelle pour les entreprises. On va essayer de vous réconcilier, les deux camps.
Je crois que l'économie suisse a le droit de continuer à se développer. J'aimerais aussi dire qu'un autre sens au niveau de la CC suisse, ce n'est pas un débat gauche-droite, comme on a tendance à le penser, parce que elle va trop loin, cette initiative. Elle va beaucoup trop loin. Et puis ensuite, on a entendu la définition du temps de déplacement. Quelle est la définition du temps de déplacement? Dans certains pays, c'est 1 heure par jour. Dans d'autres, on a la chance en Suisse d'être plus bas que ça. Et je regarde notre région par rapport au centre urbain comme Bienne. C'est 12 minutes dans le Jura bernois. Maintenant, depuis chez nous, on est à 17 minutes de Léman. Eh bien, les gens choisissent de venir dans nos infrastructures régionales. Pourquoi? Parce qu'on a aussi... Un sens de vie de qualité, mais qui ne nécessite pas forcément des grands développements durables, mais simplement parce qu'on a le choix. Mais les transports publics, c'est encore une grande interrogation, parce qu'effectivement, il ne faut pas l'occulter. Les régions comme la nôtre, on a l'autoroute, c'est super bien, mais les transports publics, c'est toujours un grand point d'interrogation. Par contre, le bien-être de nos enfants, c'est important, mais j'invite aussi nos opposants à aller voir autour des écoles qui amènent les enfants en voiture, et vous verrez bien que ce n'est pas évident à gérer.
Alors, on ne va pas ouvrir le débat des transports, on n'aurait pas le temps. Un tout dernier mot avec vous, Serge Hubin, vous avez 30-40 secondes pour conclure, mais vous avez l'habitude.
Pour dire qu'au-delà de cette question très technique, très claire sur l'aménagement du territoire, sur les zones à bâtir, on voit que s'opposent finalement deux camps. Il y en a un, c'est celui qui a certainement fait le succès de la Suisse. C'est le camp, on dira, plus pragmatique, peut-être un peu conservateur, c'est celui du XXe siècle qui veut continuer une croissance régulée, pas une croissance à tout va, mais qui veut poursuivre une certaine croissance. Et face à ces gens-là, qui sont certainement majoritaires, en tout cas dans le monde politique, on a des gens qui veulent autre chose, une autre croissance vers l'intérieur, qui veulent qu'on construise autrement, qu'on imagine d'autres solutions. Et je pense qu'on peut retenir l'opposition qu'il y a chez les architectes, où on voit bien ce double débat. Tous les architectes veulent continuer de construire. Tous les Suisses veulent continuer de construire. Par contre, on veut construire autrement. Et c'est certainement le débat fondamental de cette votation.